François Gagnon, les temps sont durs pour les banques.
Oui, et quand j'ai vu les résultats financiers des trois premières banques qui publiaient aux États-Unis, et pas les moindres, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan Chase, j'ai dit, oups, la journée va être longue. Effectivement, quand la journée a commencé, ces marchés, ça plantait de 500 points. Mais finalement, on a fini 500 points en hausse parce qu'on a réanalysé les résultats financiers. C'est sûr que pour Wells Fargo, c'était pas drôle. Citigroup, on a vu une augmentation des revenus. Et les revenus ont plus que doublé pour JP Morgan, qui a été la seule à présenter des profits. On a quand même réussi à présenter des profits, mais... parce qu'il y a un mai, on commence à se préparer déjà pour une vague de ce qu'on appelle des impayés ou encore des faillites.
Ben, là, forcément, après ce qu'on
vient de vivre. On a pris une provision, trois banques, 28 milliards.
Wow!
Et là, le président JP Morgan, qui venait d'annoncer que on prend 9 milliards strictement pour cette banque-là, là, pour les éventualités ou encore les faillites, ben il a dit, regarde, ça va être plus long que prévu initialement, et ça va être des mois moins faciles qui s'en viennent et beaucoup plus sombres, et là, je pèse mes mots, a-t-il dit. Donc, c'est une journée qui commençait pas mal difficilement, mais par contre, là, tu as eu une entreprise qui s'appelle Moderna, qui était en phase 1 avec une trentaine de patients. Ils se sont aperçus que leur vaccin semble très, très, très bien fonctionner selon ce que rapportent justement les spécialistes dans le domaine de la santé. Et à tel point qu'en fin d'après-midi, on a annoncé qu'on sautait la phase 2 et qu'on allait directement à la phase 3.
Quand même.
Et là, on va étudier le tout à compter du 27 juillet jusqu'à la fin d'octobre sur 30 000 patients. Et là, là, c'est une grosse étude, là. Et peut-être là que là, il y a beaucoup d'espoir. Le titre gagnait 16%. Tu vois, t'as Moderna aujourd'hui là qui lançait son étude à elle. Là, on commence les études cliniques sérieuses, là. Alors, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui commencent à se dire, ben là, il y a peut-être de l'espoir au bout du tunnel, finalement, et que ça nous permettra, si jamais il y avait un vaccin avant la fin de 2021, je t'entendais tantôt
avec Dr. Weiss.
Avec Dr. Weiss.
Réaliste, Dr. Weiss.
Non, tout à fait. Faut pas mettre la charrue devant un bœuf, là. Mais moi, j'ai toujours tendance, quand je vois ce genre d'études-là, parce que c'est Moderna, c'est une entreprise qui est sérieuse, qui se fait surveiller par la CDC, qui fait approuver ses résultats par la CDC auparavant et la FDA. Avant, tu sais, regarde, c'est parce que si on approuve la phase 1 directement à la phase 3, habituellement, c'est très, très bon signe.
C'est bon signe et c'est justement pas trop inquiétant en termes d'effets secondaires.
Voilà. Ben là, il disait que les effets secondaires, il y en avait plusieurs, c'est fatigue. Ah donc, mais tu sais, regarde, il y a des vaccins, là, j'en ai reçu un il y a un mois à peu près, là. Je peux te dire que ça va siphonner un 24 heures comme il faut.
Oui, puis des fois, ceux qui reçoivent le vaccin pour la grippe vont avoir un petit effet pendant 24 heures aussi.
Oui, tout à fait, mais c'est normal, là. Mais tant qu'il n'y a pas d'effet...
Oui, j'ai un ami, lui, le bras, il avait quasiment paralysé pendant une journée.
Ah, bien, ça dépend comment c'est piqué, là, tu sais, c'est pas une dans le nerf, là.
Bon, écoute, je veux t'entendre aussi sur cette étude qui montre, hors de tout doute, on s'en doutait, remarque, les ravages de la pandémie dans le domaine de l'emploi.
Bon, et on a fait une étude pour savoir quel genre d'entreprises ont fait des mises à pied et combien ont-elles fait de mises à pied. Et on s'est aperçu que plus du quart, plus 28,4% des entreprises n'ont pas eu le choix de faire des mises à pied. Et le cinquième de ces entreprises-là ont mis plus que la moitié de leurs employés à pied à cause du COVID et la fermeture et les confinements. Bien sûr, ça vient dénoter encore une fois, on s'en doutait, on a vu les statistiques au cours des derniers mois. Secteur des arts, spectacle, loisirs, c'est 90%. Agriculture, foresterie, pêche, 83%. Hébergement, c'était moins pire, mais c'est quand même 80% parce que là, on avait réussi à garder certains restaurants ouverts, entre autres le groupe Germain qui avait réussi à garder quelques hôtels ouverts.
Oui, quelques chambres, je te dis que...
Oui, bien, c'était parcimonieux. Hein.
En effet, je suis allée, moi, c'était pour aller voir ma mère à Québec, là, il y a un mois et demi à peu près, puis François, écoute, j'étais toute seule sur mon étage.
Oh, on est tranquille dans ce temps-là.
On était bien tranquille.
Et... une grande majorité, 80% ont effectué des mises à pied et plus de 50% de leur effectif dans ce groupe-là. Donc, on comprend là, que l'économie a fait extrêmement mal. Mais on s'est aperçu en même temps, ça c'est la note, moi je trouve, positive, 22,5% des entreprises ont dit qu'à la suite du confinement, et l'expérience qui a été donc positive pour le télétravail, qu'au moins 10 % des entrepreneurs vont continuer à faire du télétravail à leurs employés. On s'est aperçu pendant la pandémie que faire du télétravail, ça n'abaissait pas la productivité et ça faisait sauver des sous. Alors, tu sais, quand on dit en anglais « money talks », ben, t'en as une preuve, là.
En effet.
T'en as une preuve, là.
En effet. Puis par contre, si t'as le temps, d'ici la fin de l'été, là, pendant qu'on est ensemble, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit sujet sur ce que le télétravail pourrait avoir comme conséquence aussi sur les grands bureaux du centre-ville. Tu sais, ceux qui louent des bureaux.
Ah, sur le nom de pied carré, oui.
Très inquiets. Ils ne trouvent pas ça drôle du tout.
J'en ai parlé il y a un mois, puis effectivement, il commence à y avoir des changements, là.
Ben c'est clair qu'il y a des gens qui vont, des grosses compagnies qui vont louer moins de pieds carrés parce qu'une partie de leurs effectifs vont être à la maison.
Puis à cause aussi de la restriction sur la distanciation sociale. Écoute, si tu restreins tes bars, tu restreins tes bureaux aussi.
T'as pas le choix.
Alors donc, t'as pas le choix. Garde Revenu Québec, qu'est-ce qu'ils vont faire là à partir du mois de septembre lorsque les gens vont revenir? C'est la moitié des pieds carrés qu'on va utiliser là. Pour les gens. Et puis, on va le faire en séquence. Donc, tu vas avoir besoin de moins de bureaux, là. Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. Puis, écoute, oui, j'allais te relancer sur la PCU aussi parce que tu as participé au reportage de Valérie Leboeuf tout à l'heure sur cette compagnie qui garde ses employés. En ce moment, un petit commerçant qui garde ses employés en leur disant ben, garde, pour que vous gardiez votre PCU, je ne vous payerai pas. Là, travaillez pour moi, puis je vous payerai dans quelques semaines. Là, dans
ce
quelques
qui est
mois.
Tout à fait illégal.
Mais
là,
complètement, il le dit. Il le dit.
Ben oui, ben
le
oui,
monsieur, il sait,
c'est
mais c'est ça où il perd son monde.
Ouais, mais il devrait faire comme ça au Lac-Saint-Jean. Moi, j'inviterais les gens à aller lire l'article du quotidien de lundi, là. Et les employeurs ont commencé à mettre leurs pieds à terre, puis leur ont dit, garde, par courriel, donc je fais ça officiellement, garde, c'est parce que moi, j'ai besoin de toi à temps plein. Si tu reviens pas, je t'envoie un relevé d'emploi, refus de travailler. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de PCU, il n'y a plus d'assurance-emploi. Il pense deux fois, l'employeur, avant de dire non.
J'imagine, alors donc, mais il y en a qui ne veulent pas briser l'atmosphère.
Mais moi, la PCU là, que je voulais te parler, c'est plutôt la suite des choses. Le comité sénatorial des finances commence à poser des questions au gouvernement, parce que là, on le sait, là, on a prolongé deux mois, puis après ça, c'est terminé la PCU. Là. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est comme une espèce de transition pour éviter qu'il y ait un choc sceptique de monnaie. Hein? Dans le sens où les gens vont se retrouver, gros gens comme devant, ceux particulièrement les plus vulnérables, qui n'ont pas le droit à l'assurance-emploi et qui ont perdu leur travail à cause du COVID. Une espèce de transition, c'est-à-dire une obligation d'aller travailler, de chercher du travail, et au fur et à mesure que tu travailles et que tes gains augmentent, ben la PCU diminue. Ou encore, de trouver une autre façon de le faire. Peut-être avec les provinces, disent-ils, les territoires, les gouvernements autochtones, mais là, c'est comment on va le faire? Ça, c'est extrêmement difficile parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais là, depuis le début du COVID, on en revient souvent sur cette notion du revenu de base garanti. La PCU, c'est un peu ça, là. C'était exactement ça. Alors, comment tu vas l'implanter, ça, cette mesure-là? Faut y penser sérieusement. C'est pas une mauvaise idée. Il faut que ça aille aux bons endroits, aux bonnes personnes. Mais il va falloir le financer quelque part, ça, cette affaire-là. Parce que l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Ça va coûter 80 quelques milliards, la PCU. Ça va coûter 78 milliards, la subvention salariale d'urgence qu'on vient d'annoncer qu'on va prolonger jusqu'au mois de décembre.
Ouais.
Alors, si tu fais un revenu minimum garanti, c'est le budget.
C'est ça. Et puis, il n'y a pas de budget pour l'instant. Mais encore, là, comme je te disais, les gouvernements t'écoutent peut-être. On le souhaite de tout cœur, François. Alors, je te dis un gros merci et je t'espérerai demain à la même heure.
Avec un grand plaisir.
Salut, bye-bye.
Bye-bye.